France Culture.
France Culture, l'esprit public. Astrid de Villaine.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Esprit public. Aujourd'hui, l'exception culturelle française a-t-elle du plomb dans l'aile ? Nous serons avec l'écrivain Maïr Guven, la spécialiste du patrimoine Marie-Yvonne de Saint-Pulgent, l'économiste Natacha Valla et la journaliste Claire Baumelard. Une émission préparée comme chaque semaine par Anne-Claire Bazin, réalisée et mise en onde par Souad Boukorsa.
C'est pourquoi, encore une fois, la culture domine tout. Elle est la condition sine qua non de notre civilisation d'aujourd'hui, comme elle le fut des civilisations qui ont précédé celle-là. Je me félicite encore une fois d'être venu parmi vous. J'en emporterai d'abord, au point de vue général, le sentiment d'une création et l'évidence d'une innovation, par conséquent quelque chose d'émouvant et d'encourageant au possible. Bien entendu, j'en retirerai aussi quelques conclusions pratiques sur ce qu'il y a lieu que l'État continue de faire pour la culture française en général et pour ces maisons de la culture en particulier. Il faut en créer d'autres. Un certain nombre a été prévu par notre quatrième plan. D'autres le seront par notre cinquième. Il faut faire aussi, sans doute, un centre national de diffusion culturelle pour que tout ce dont nous disposons puisse se répandre et être vu, entendu, connu par le plus grand nombre possible d'hommes et de femmes de chez nous.
La culture domine tout, déclare dans cette archive de l'INA le général de Gaulle, aux côtés de son ministre des Affaires culturelles, André Malraux. Nous sommes en 1965, le général souhaite que la culture se diffuse au plus grand monde. Sacré projet ou projet sacré, tradition française depuis des siècles, au point d'y consacrer une expression devenue spécifique et juridique, l'exception culturelle française. D'abord, pour la sortir des accords commerciaux du GATT en 1993 et ne pas faire de la culture une marchandise comme une autre. Ensuite, pour préserver la diversité culturelle, protéger les œuvres françaises et puis élargie à la francophonie, l'exception doit prévaloir en matière de culture tout en étant, bien entendu, une culture d'exception. Mais aujourd'hui, où en est-on ? L'expression est de moins en moins usitée. Au rythme des budgets en berne, les politiques culturelles semblent moins ambitieuses qu'auparavant et les coupes de plus en plus importantes dans certaines collectivités. Ces jours-ci, une nouveauté tarifaire s'applique progressivement sur plusieurs sites touristiques emblématiques du pays, au château de Chambord, à Versailles, au musée du Louvre, à la Sainte-Chapelle, à Paris et à l'Opéra Garnier, les étrangers hors Europe paient plus cher que les locaux. Est-ce une atteinte à notre exception culturelle ou une logique évolution ? On en débattra. Et puis, paraît cette semaine justement en poche pour plus d'accessibilité, l'exclusion culturelle, un manifeste coup de poing pour une culture accessible à tous. A-t-elle déjà tenu sa promesse d'émancipation, la culture ? La machine s'est-elle grippée ? Et si oui, quand ? Et que peut-on faire collectivement pour y remédier ? Nous avons une heure pour en parler avec vous. Marie-Yvonne de Saint-Pulgent, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes présidente du comité d'histoire du ministère de la Culture. Vous avez été directrice du patrimoine au ministère de la Culture dans les années 90. Et votre prochain livre paraît cette semaine, Alerte sur le patrimoine chez Gallimard. J'accueille également Maïr Guven. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes éditeur et écrivain. Claire Baumelard est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Grand reporter au Figaro, spécialiste des questions de culture. Et Natacha Valla, bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être là. Doyenne de l'école du management et de l'impact à Sciences Po. Pour qui vous avez publié ce rapport « La valeur de la culture » en novembre dernier, qui a été tiré d'une conférence organisée à Sciences Po et qui sans doute sera publiée dans les prochains mois, vous nous direz ça. Vous êtes également administratrice au sein des groupes Vinci et LVMH. Alors dans quel état se trouve l'exception culturelle française, Marie-Yvonne de Saint-Pulgent ?
On traverse une crise manifeste, c'est évident. Elle est d'ailleurs pas, elle date pas de cette année, elle a commencé déjà il y a un certain temps. Je me souviens d'avoir fait une intervention dans un forum organisé par Libération à Lille, lorsque Lille était capitale culturelle de la culture, où j'avais mis en garde les artistes sur la fin d'une autre exception qui était une espèce de respect des politiques pour la culture, l'idée que c'était quelque chose d'important. Il y a 15 ans, c'était fini. On voit bien la disparition progressive des projets culturels, des projets présidentiels, et maintenant des programmes des municipaux. Voilà, donc les élus ont cessé de considérer que c'était un sujet prioritaire. C'était le premier signe. On parle beaucoup des coupes des collectivités territoriales, mais ça a commencé déjà aussi depuis quelques années avec l'arrivée de municipalités vertes qui ont commencé à remettre en cause un certain nombre d'institutions culturelles, là au nom d'une culture trop savante qui ne plaisait pas à tout le monde. Ça a commencé à Grenoble, ça s'est poursuivi à Bordeaux, il y a eu des problèmes aussi à Strasbourg. Et puis maintenant, ce sont des municipalités qui coupent les crédits de la culture parce que c'est moins important pour le peuple que les budgets sociaux ou autre chose, alors pour des raisons également idéologiques. Des régions...
C'est pas les seuls, parce qu'on pourrait citer aussi Laurent Wauquiez...
Oui, c'est ça.
En Haute-Loire, ou bien sûr, cette présidente Christelle Morançais qui a tout coupé, carrément, y compris...
Oui, mais c'est ce dont je parlais, les régions de droite, maintenant, qui... Mais c'est du populisme dans les deux cas. La culture savante, c'est pas pour le peuple, donc on arrête de soutenir, ou la culture est trop savante, et donc on arrête de soutenir aussi. Dans les deux cas, c'est un discours populiste. Il y avait eu une enquête à la municipalité de Bordeaux sur le thème « La culture, être artiste, est-ce un métier ? » Ça avait beaucoup scandalisé les artistes, et à juste titre.
Claire Baumelard ?
Marie-Yvonne de Saint-Pulgent indique que ça fait plusieurs années que ce mouvement s'est installé. Mais ce qui est très nouveau et très urgent, c'est quand même les déficits budgétaires. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut tout ramener à des choix politiques. Là, il y a une contrainte économique, tout de même. On reparlera après des Pays de Loire. Les Pays de
Loire... On peut en parler maintenant. Vous savez, tant que c'est sur la table, allons-y, parce qu'on ne sait jamais où ça nous mène, cette émission.
Parce que les Pays de Loire, c'est vrai, ont annoncé une baisse budgétaire de 100 millions d'euros sur plusieurs années, dans laquelle la culture était aussi touchée. Mais la culture est aussi touchée, c'est-à-dire que les lycées, les routes, toutes les obligations auxquelles doivent faire face les régions sont touchées, et la culture aussi. C'est-à-dire, on ne doit pas faire des Pays de Loire uniquement une obsession anticulturelle. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a cette réflexion sur « il y a moins d'argent, il y a trop de pression fiscale », eh bien, tout le monde doit faire des efforts. La culture y compris. Alors, on aimerait que ça soit différent, surtout ici, surtout lorsqu'on s'occupe de culture. Mais est-ce que, quelque part, tout le monde ne doit pas prendre sa part ? Ça, c'est une question ouverte.
Surtout que, d'après ce que j'ai compris, vous allez me dire, l'exception culturelle se finance par deniers publics. C'est bien pour ça qu'on en a besoin.
En grande partie.
Pas seulement.
Pas seulement, mais
Marie-Yvonne
en grande partie.
Saint-Pulgent.
En tout cas en France.
Non, en fait, on vit sur des idées reçues. La culture administrée en France, mais en réalité, la majeure partie des financements de la culture vient des individus, des particuliers, et de la publicité, des journaux, etc. En fait, majoritairement, le financement de la culture est privé en France. Mais il y a une part extrêmement importante de financement public, de toutes sortes d'ailleurs, qui sont des financements directs par les subventions, mais aussi des financements indirects par des avantages fiscaux, ce qu'on appelle les dépenses fiscales. C'est très très compliqué de s'y retrouver, d'abord parce qu'on ne sait pas exactement combien les collectivités territoriales donnent à la culture. On procède par sondage, en réalité. Il est impossible de compter l'argent dépensé par 36 000 communes pour la culture. Et par ailleurs, même du point de vue de l'État, c'est très très complexe parce qu'il y a 15 ministères qui financent la culture, pas seulement le ministère de la culture. Mais au moins pour l'État, on a un document annexé à la loi de finances où on peut voir l'ensemble des financements publics de la culture étatique. Par contre, on sait moins. Mais en gros, moi je disais toujours, il faut raisonner en 1, 2, 4. 1, c'est le ministère de la culture. 2, c'est l'ensemble des ministères de l'État. 4, c'est le total des financements publics. Donc, vous avez à peu près moitié-moitié, grosso modo, collectivité territoriale d'un côté, État de l'autre.
Maillard Guven.
Sûr.
Ah ben sur tout ce qu'on vient de se dire, ou l'exception culturelle a-t-elle du plomb dans l'aile? Parce que moi, c'est la question qu'on se pose.
Moi, je suis très inquiet du rapport qu'ont les politiques à la culture en ce moment, parce que pour moi, la culture... Pourquoi on se rappelle la civilisation grecque, la civilisation égyptienne? Pourquoi on se rappelle des Mayas? Parce qu'il existait de la culture, on a des traces encore. Il y a des grandes civilisations qui ont disparu de nos imaginaires. Donc, créer de la culture, faire vivre, fabriquer de la culture, c'est fabriquer des traces, c'est dire qui nous sommes, ce que nous sommes et ce que l'on va devenir. Donc, quand les politiques n'aiment plus la culture, quand ils ne veulent plus la financer, j'entends qu'il y a des restrictions budgétaires, mais j'entends aussi cette anecdote qu'on prête à Churchill. Pendant la guerre, son ministre des Finances lui présente le budget. Et puis Churchill constate qu'on a sabré le budget de la culture et lui dit « espèce d'imbécile, c'est pour ça que nous nous battons, c'est pour ça que nous existons ». Et donc pour moi c'est absolument essentiel de réfléchir constamment à comment notre pays fabrique de la culture, comment des artistes émergent, comment des éditeurs, des producteurs de cinéma émergent, des directeurs de musées. Peut-être qu'on ne fait pas suffisamment bien, peut-être qu'on finance trop, peut-être qu'on finance pas assez. Il y a la manière, il y a les méthodes. Le pays évolue également, il change. Peut-être qu'on ne finance pas assez la culture dans ce qu'on appelle la France périphérique. Qu'on finance pas assez la culture des classes populaires. Mais en tout cas, je suis pas d'accord avec quand on dit que l'excession culturelle a disparu. Moi, je viens du terrain au sens où je suis écrivain, je suis éditeur, je suis auteur de cinéma, je suis réalisateur. Donc je fabrique de la culture, j'en commercialise. Je vais à l'étranger pour des conférences, des trucs. Je vois le bureau du livre, je vois comment je suis accueilli dans les instituts français. Je vois ce qui se fait à l'étranger, en Espagne, en Italie, en Allemagne. Je trouve qu'on est quand même assez puissant. J'étais récemment à Sarajevo, où l'Institut français et le bureau du livre font un travail exceptionnel pour accueillir les écrivains français, organiser des conférences, tout un tas de choses. Ça marque notre présence, ça marque qu'on soit un grand ou un petit écrivain. On a accès à ces choses-là et on rencontre des lecteurs sur place. Donc... j'aimerais bien que nos politiques se réveillent, qu'aimer la France, c'est pas juste aimer son budget ou restreindre le budget, c'est aimer son futur, c'est le fabriquer, c'est le créer. Donc j'aimerais bien qu'ils se réveillent. En tout cas, j'aimerais bien les secouer. Voilà.
Natacha Valla.
Pour rebondir par rapport à ce qui a été dit, je pense qu'on fait le... Il y a un lien à faire avec ces questions budgétaires, parce qu'on sent qu'on tourne autour, on sent que la chose végète depuis 10-20 ans. Les finances publiques françaises sont dans un état lamentable, ça c'est vrai, mais c'est pas le sujet de l'émission. À mon avis, ça superpose deux questions qui sont très distinctes l'une de l'autre. Il y a l'une qui est la culture comme objet politique, et effectivement, on voit émerger dans certains programmes l'idée que la culture, faut plus la financer. La culture, c'est que pour les élites, on pourra en parler plus tard. Et puis, d'un autre côté, il y a effectivement cette logique budgétaire implacable qui dit que le pays, dans son ensemble, dépense trop depuis trop longtemps et que donc maintenant, il faut vraiment trouver une solution. Et trouver une solution, malheureusement, en se croisant avec cet agenda politique, ben, la solution, s'il est, voilà, ça peut émerger avec des solutions qui mettent la culture sur le côté. Moi, il me semble que ça nous force à regarder une chose en face, qu'on a regardé en face avec l'environnement, il y a plusieurs décennies de ça aussi. C'est-à-dire, la culture, et ce que vous venez de dire, c'est que, en termes d'économiste, je traduirais ça de façon un peu barbare sans doute, mais la culture, c'est un ensemble immensissime d'externalités intergénérationnelles. C'est-à-dire deux choses. Une externalité pour un économiste, c'est quelque chose qui ne se mesure pas par un revenu en euros, en dollars, un revenu financier dans les comptes nationaux. Or, c'est un problème. C'est un problème pourquoi ? Parce que en résultat de ça, c'est souvent la puissance publique qui est amenée à financer la culture précisément parce qu'elle n'a pas cette contrepartie économique et financière. On ne parle pas encore de rentabilité, mais simplement de valorisation. Et alors, ce qu'on a fait pour l'environnement, qui est extraordinaire, qui est de donner une valeur à la nature, de donner une valeur au carbone, vous allez dire, c'est un petit peu plus standard dans notre cadre de pensée, mais on pourrait très bien donner une valeur à exactement ce que vous décrivez, comment ça peut créer du lien entre les espaces territoriaux, entre les différents milieux sociaux, comment ça peut créer du lien entre nous et notre propre histoire, en remontant très très loin. Et cette valeur-là, le problème, c'est que tant qu'elle n'est pas rendu tangible aux yeux des économistes et des financiers, ben, ça sera toujours traité un petit peu à part. On a essayé de faire cet exercice à Sciences Po en menant des groupes d'étudiants qui vont, alors on les a mandatés au Centre de musique baroque de Versailles, ça c'est un peu mon dada, au Théâtre du Châtelet, à la Gaîté Lyrique, et on leur a dit voilà, on les a fait accompagner par des comptables, des comptables qui étaient un peu acculturés à la comptabilité extra-financière environnementale quand même, mais en disant voilà, comment on peut faire pour valoriser ces fonds de partition qui sont dans des caves à Versailles et qu'on n'a pas rendu encore public pour le plus grand nombre, le fait de les rendre publics, ça vaut combien? Le fait d'avoir une action culturelle attrape à la Verrière, toutes les semaines, un groupe de baroqueux qui vont voir les collégiens. Comment on mesure ça? Et est-ce qu'on peut donner une valeur tangible à ça pour que, enfin, un jour, le secteur privé puisse s'emparer de ces valorisations-là pour peut-être donner lieu à un modèle de financement qui pourrait se substituer effectivement à des finances publiques qui sont dans un état un peu compliqué aujourd'hui.
Est-ce que justement donner une valeur à la culture, c'est pas complètement antinomique avec l'exception culturelle qui dit que la culture n'est pas une marchandise, Marie-Vonne de Saint-Pulgent?
Une marchandise comme une autre.
Comme une autre.
C'est pas aussi, ce qui est aussi le cas de la pharmacie, de l'alimentation, enfin, tas de choses. Hein. Rien n'est comme une autre, comme marchandise. Non, l'exception culturelle française, c'est, juridiquement, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que l'exception culturelle, ça consiste à ne pas mettre la culture dans les accords de libre-échange. Hein. De toute façon, le libre-échange, aujourd'hui, c'est pas très à la mode. Hein. Mais bon. L'exception culturelle française, c'est autre chose. C'est l'idée que la France se fait de la culture, de son rôle dans son histoire et de son rôle dans le monde, et du rôle de la France en tant que porteuse de culture. Et ça, à mon avis, ça reste. Ça reste à l'extérieur, surtout. Comme l'a très bien fait valoir notre collègue écrivain, en réalité, c'est Maillard surtout à l'extérieur qu'on constate la valeur de la culture en France et la valeur de la culture française quand on se compare avec d'autres. Voilà. Ça reste très vrai. Ça reste un sujet sur lequel il y a un investissement massif, non seulement des pouvoirs publics, mais aussi des gens. Voilà. Je pense que l'opinion publique n'est pas d'accord avec l'idée que c'est pas important la culture, qu'il faut pas la soutenir. Ensuite, ils divergent sur quelle culture j'ai envie de soutenir.
Hein. Et puis attention aussi, je rappelle quelques chiffres, le budget de la culture nationale n'est pas non plus en totale baisse. Hein. 4,6 milliards en 2025, 0,6% du budget de l'État, 1,5% du PIB, au-dessus de la moyenne européenne, Claire Baumelard.
Oui, c'est pas complètement ridicule. Il me semble que une des raisons qui explique le basculement actuel, c'est parce qu'on a eu, on l'entend très bien dans le son du général de Gaulle tout à l'heure, avec ses maisons de la culture, aller partout, toucher tout le monde, on a eu pendant des décennies une politique de l'offre. C'est-à-dire, on se disait, plus il y a de théâtre, plus il y a de cinéma, plus il y a de musées, plus les gens iront, auront une culture, etc. On a donc multiplié les équipements. On a aussi beaucoup intégré de patrimoine, parce que la notion de patrimoine s'est, je dirais, élargie à travers les décennies. Maintenant, tout est patrimoine aux yeux des Français. Donc, on a maintenant un équipement et un existant immense. Et là, une partie du problème est comment est-ce qu'on l'entretient? Comment est-ce qu'on le fait fonctionner? On est un peu au bout de cette logique. Et pour quel public? On est aussi à l'heure des comptes, c'est-à-dire on a des énormes musées et on sait qu'il y a une fraction des Français qui n'y vont jamais. On a multiplié les scènes nationales et je ne sais plus quels sont les chiffres de fréquentation de théâtre, mais c'est quelque chose comme 25% des Français.
Non, c'est très inférieur. Voilà.
Très inférieur.
Le théâtre est une pratique extrêmement... Enfin, ça dépend ce que vous entendez par théâtre. Voilà. Il y a le théâtre public et il y a le théâtre privé. C'est pas les mêmes.
Je prends tout, mais on est là aussi dans une histoire de rareté d'argent. Tout d'un coup, on se retourne et on se dit, bon, alors, qui vient? Qui consomme? Qui on touche? Et c'est ça un peu la grande crise. Et ça, on n'arrive pas à ouvrir ce grand dossier. On n'arrive pas à mettre à plat quel argent dépenser pour qui. Et le ministère de la Culture passe son temps à dire on va faire produire moins, produire mieux, on va faire démocratisation culturelle, on va ceci, on va cela. Et on a du mal. Parce qu'il y a plus qu'une seule raison qui explique que tous les Français ne consomment pas de la culture.
Il y a aussi eu une grande illusion qui a été constatée dans les années 60. On s'est raconté que le problème de l'accès à la culture, c'était un problème d'offre, en effet. Est-ce qu'il y avait suffisamment d'équipement, mais aussi un problème de temps et de niveau de diplôme. Et donc, il y avait eu toute cette réflexion autour de la civilisation des loisirs. La baisse du temps de travail allait dégager du temps pour la culture. L'élévation générale du niveau de diplôme allait augmenter le nombre de populations ayant accès à la culture. Et en réalité, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ce qu'on n'a pas compris, c'est que la culture, c'est une forme d'utilisation du temps libre parmi d'autres. Par exemple, le voyage, le tourisme, est en concurrence avec la consommation culturelle. Il n'y a que le patrimoine qui est quelque chose qui se consomme par le tourisme. Mais si vous voyagez, vous n'êtes pas en train d'aller au théâtre ou au cinéma.
Et mais vous pouvez aller au musée.
Et vous allez dans les musées, mais vous n'allez pas au théâtre, au cinéma. Et par ailleurs, vous dépensez de l'argent. Et la culture, c'est il faut du temps, du capital culturel et des moyens financiers. Or, il est très difficile, la population qui a ces trois éléments, en réalité se rétrécit, parce que le temps de travail, après avoir diminué, a augmenté pour une certaine partie de la population, les catégories supérieures qui travaillent plus qu'avant, les femmes qui travaillent plus qu'avant, et par ailleurs, les gens qui ont du temps, souvent, n'ont pas de capital culturel et encore moins d'argent. Et donc, ils vont consommer des écrans, de la télévision, et ils ne vont pas faire des pratiques culturelles. Et l'autre grande illusion, c'est que le niveau de diplôme, c'est certes élevé dans la population, mais la pratique culturelle à niveau de diplôme égal, elle a baissé. Voilà, donc on a, c'est pour ça d'ailleurs que c'est très trompeur, quand on dit combien de diplômés de l'enseignement supérieur fréquentent telle pratique culturelle par rapport aux ouvriers, par rapport à il y a 50 ans. Sauf qu'aujourd'hui, la catégorie diplômés de l'enseignement supérieur a explosé, alors que les ouvriers, il y en a beaucoup moins. Et ces diplômés de l'enseignement supérieur d'aujourd'hui, en réalité, sont moins cultivés au sens classique du terme que ceux d'il y a un demi-siècle.
Peut-être qu'ils se cultivent autrement aussi.
Ils font autre chose. Ils font autre chose de leur temps. Et encore une fois, l'utilisation du temps libre est quelque chose d'extrêmement compétitif. On voit par exemple dans la lecture, en réalité, les gens diplômés de l'enseignement supérieur aujourd'hui ne lisent plus.
C'est peut-être pour ça que cet essai dont je parlais en introduction est sorti, l'exclusion culturelle de Victorien Bornéa. Je cite juste un passage. Avec le ministère de la Culture est née une culture de l'exclusion d'une très large partie de la population. Elle s'est accompagnée d'un schisme majeur entre les beaux-arts et l'éducation populaire dont on ne s'est jamais remis. Maïr Guven.
Bon, ça reste un essai ou un pamphlet, donc c'est volontairement provocateur. Si on regarde de loin, ça peut paraître vrai. Les financements des musées, etc. Mais le ministère de la Culture finance aussi la fête de la musique et tout un tas de maisons de quartier, enfin tout un tas de choses.
Les scènes de musique actuelles, par exemple.
Les scènes de musique actuelles. La musique, en fait, on ne le voit pas, mais toute la production musicale, dont le rap qui touche les jeunes et les classes populaires, il y a tout un tas de subventions, de choses créées pour que les producteurs de musique puissent investir sur des artistes sans débourser un euro. Au départ, ça ne veut pas dire qu'on leur donne de l'argent. Ça veut dire que c'est comme une banque, on leur prête de l'argent.
C'est pareil pour le cinéma.
C'est pareil pour le cinéma. Donc moi, c'est pas que je veux... Sur ces questions-là, j'aime bien qu'on parle parfois sans idéologie. C'est pas parce qu'on est d'un courant politique qu'il faut affirmer des choses de manière frontale. Il faut regarder comment fonctionne le secteur. Moi, en tant qu'éditeur ou producteur, par exemple, j'utilise... peu les dispositifs publics, parce que je trouve ça compliqué. Il y a des choses absolument géniales, mais je ne sais jamais quel dossier remplir, à quelle date le rendre, est-ce que ça ne fait pas concurrence, etc. Donc, mais là, on arrive dans un travers français. C'est pas le monde culturel, c'est un truc bureaucratique où c'est complexe, on ne sait pas qui sont vraiment les interlocuteurs. Donc, je suis pas totalement d'accord avec ce qui se dit. Je comprends le sens profond, mais je suis pas totalement d'accord.
Natacha Valla.
Moi, je comprends l'intention, et l'intention est sans doute bonne. Je suis d'accord avec ce qui a été dit, je vais le dire un peu autrement. C'est qu'il me semble qu'on part d'un faux dilemme, et il faut vraiment tuer cette idée dans l'œuf, parce qu'après, tout en découle, c'est qu'il y a une sorte d'un dilemme entre l'excellence et la démocratisation. Or, il n'y a rien de moins vrai, en réalité, ouais. Puisque on peut... l'excellence artistique, ça peut être inclusif. On se rend compte qu'il y a des pratiques qui se créent quand on est tout petit, et qui ensuite induisent de la réussite scolaire et induisent de l'appétence culturelle et artistique, pas forcément même au sens étroit historique du terme, mais avec un potentiel de création et de créativité, CF, le rap, etc. Donc cette antinomie qu'on essaye d'introduire dès le départ, et une fois qu'on l'a acceptée, on peut plus rien dire à l'encontre de ça. Non, la démocratisation, c'est pas forcément la dévaluation. L'excellence artistique, c'est pas forcément l'exclusion. On le voit au niveau des enseignements, des pratiques artistiques, par exemple, où finalement, la mise en place des réseaux de conservatoires. L'intention est bonne, on veut démocratiser. Mais alors finalement, qu'est-ce qui se passe quand vous... Alors moi, je suis parente d'élèves de différents conservatoires de la ville de Paris, donc je l'observe tous les jours. Mais si vous voulez réussir à devenir musicien professionnel, c'est très difficile de le faire tout seul, à la main, par le biais des conservatoires, malheureusement. Parce qu'il va falloir que vous apportiez un capital culturel essentiellement. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup d'enfants de musiciens parmi les musiciens qui réussissent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont ce capital culturel que l'institution n'est plus capable ou ne se donne plus les moyens. Je dis pas qu'elle est plus capable, parce qu'il y a des gens très très bien dans les conservatoires, mais il faudrait avoir les moyens de donner cet investissement à long terme dès le plus jeune âge dans des structures qui effectivement sont financées par le public. Donc je pense qu'il faut qu'on accepte, qu'on enlève de la tête des gens que cette qu'il y a une tension insoluble entre un élitisme qui serait associé à l'excellence et une démocratisation qui elle-même fait la base des publics de demain qui sont dans la...
Par ailleurs, il faut bien voir que les conservatoires souvent produisent des musiciens, des musiques actuelles. Beaucoup des musiciens que nous entendons sont sortis des écoles de musique, ils ont eu une formation classique et ensuite ils font autre chose. C'est le grand apport d'ailleurs des générations qui m'ont succédé, puisque moi je suis une ancienne élève du Conservatoire de Paris aussi, et d'avoir accepté l'éclectisme musical et finalement, et ils sont formés comme ça. Et les autres sortent des scènes de musique actuelle. Et donc, dans les soutiens publics à culture, il y a aussi la fourniture d'équipements qui sont utilisés par ces producteurs, ces créateurs. Et il faut aussi faire confiance aussi à la société civile pour trouver de nouvelles formes de culture. Ils en trouvent.
Et est-ce que les conservatoires sont accessibles en termes de tarifs, en termes d'emmener les enfants? Parfois, ça, c'est un coût aussi d'emmener les enfants.
Oui, alors ça, c'est le système français qui a organisé les écoles de musique en dehors du système scolaire, ce qui est très différent en Grande-Bretagne, en Allemagne. Ça, c'est un défaut de notre système, mais ça, c'est la faute alors d'un grand acteur dont on n'a pas parlé et qui est en grande partie, aussi en partie responsable d'échec de la démocratisation, l'éducation nationale. Car l'échec majeur, c'est pas celui du ministère de la Culture, c'est celui du ministère de l'Éducation nationale de ne pas avoir fait rentrer suffisamment la formation artistique à l'école. Et qui reste très très insuffisant par rapport à des pays européens.
Maïr-Guven.
Je suis entièrement d'accord avec Marie-Yvonne de Saint-Pulgent. On est le pays qui a quasiment inventé le cinéma et la photographie. Dans ce pays, très peu de gens savent prendre une photo correcte. Or, ça s'apprend.
Je sais pas sur quoi vous vous basez.
Je me le base sur l'expérience du quotidien, des règles, les règles des tiers, le nombre d'or. Je constate à l'école, hein, j'ai eu des cours d'art plastique, il a fallu que je travaille dans un journal et qu'on m'explique ce qu'est une bonne photo. Ça ne veut pas dire que je sais la prendre, mais je sais la lire. Qu'est-ce que raconte l'image? Et je me suis toujours dit, il faudrait apprendre ça à l'école. Ne serait-ce que même avoir des règles de base pour le dessin. Parce qu'il y a des règles, on apprend. Poser des points pour un visage, poser quelques formes, la perspective. Donc on le fait, mais parfois on le fait même en cours d'histoire, quand on étudie l'Antiquité grecque ou l'Égypte ancienne. Mais je pense que c'est assez urgent, parce que ce sont des clés. Et ensuite, quand on grandit, on va au musée, on va voir des expos, ou on regarde un film, on a ces clés. Donc on regarde le film, l'exposition, on la regarde autrement. On a une deuxième, une troisième lecture. Et c'est un exemple que je donne, mais pour moi, apprendre la culture, apprendre à créer, à fabriquer, vous n'allez pas forcément devenir artiste après, mais vous allez mieux apprécier ce que vous allez voir, lire, entendre, comprendre. Vous faites du théâtre au lycée, mais vous apprécierez beaucoup plus le cinéma ou le théâtre ensuite. Ça, je crois que je suis d'accord avec Marie-Yvonne, l'éducation nationale doit vraiment insister là-dessus, et c'est pas juste donner le goût de la saltimbanquerie aux jeunes, c'est pas du tout ça. C'est une formation de l'intelligence, de savoir créer et fabriquer, et c'est de l'autonomie de soi aussi.
On va pouvoir faire une pétition parce que je souscris à tout ce qui a été dit.
D'ailleurs, c'est dans votre rapport, Natacha Valla, que vous avez fait pour Sciences Po, la valeur de la culture. Tous les interlocuteurs que vous avez interrogés notent, il y a un décalage entre l'ampleur de l'offre culturelle et l'insuffisance de l'éducation artistique.
Complètement, complètement. Et ça fait partie c'est pas une question de coût, c'est une question d'agencement des moyens.
Dire, pardonnez-moi, mais si on manque déjà de profs de maths ou de français, est-ce qu'on va avoir assez de profs de art plastique ou...
Il y a sans doute de l'amélioration d'efficacité dans le...
Oui, puis c'est une mauvaise organisation. On a fait une grosse erreur de créer des agrégations, ça c'est un peu la faute des deux ministères. On a créé des agrégations d'art plastique et de musique en calant ça sur l'enseignement des disciplines académiques, alors que ça relevait d'une toute autre forme de formation. C'est d'ailleurs comme la question de la religion. Il fallait mettre... on a dit un enseignement d'histoire de l'art, moi je dirais d'histoire des civilisations, qui aurait tout intégré dans le sujet. Et dès le départ aussi, dès l'école primaire, il y a un gros défaut, c'est qu'on ne forme pas du tout l'œil. On forme un peu l'oreille, mais pas du tout l'œil. Et ça, c'est un énorme défaut de notre éducation. On a beaucoup parlé de formation à la sensibilité. Moi, je crois pas à ce terme de sensibilité. Mais par contre, nous avons 5 sens. Et ils sont pas du tout sollicités de la même manière par l'éducation primaire puis secondaire.
Claire Baumelard, et puis je vous redonne la parole. Natacha Valla, je vous ai coupé, pardonnez-moi.
C'est là où on voit que le détricotage du pass culture au fil des ans... va à l'encontre de tout cela, parce qu'il y avait une part individuelle qu'on donnait au départ aux 18 ans et plus, puis après ça a évolué. On pouvait être contre cette part individuelle ou pour... Enfin, vous voyez, il y avait tout un débat sur est-ce que donner de l'argent, c'est une bonne idée ? Donner de l'argent à un moment, à un âge précis, est-ce que c'est une bonne idée ?
Pour des biens à consommer culturels,
sur des biens
d'une librairie. Il y avait encore dans la presse aujourd'hui un jeune qui a bénéficié du pass culture, qui a pu s'acheter un piano et qui en a fait sa passion. Ça a quand même sans doute un peu porté ses fruits.
Donc on pouvait s'interroger sur la part individuelle, mais il y avait aussi une part dite collective, c'est-à-dire une part qui était versée à l'éducation nationale et les enseignants pouvaient financer des sorties scolaires. Parce que le grand problème, finalement, enfin un des grands problèmes des écoles, c'est qu'ils voudraient bien aller au musée, ils veulent bien emmener leurs élèves voir un patrimoine et un monument, mais c'est loin, puisque la France c'est un pays très étendu et il y a beaucoup de gens qui sont dans la ruralité. Et il faut louer un car, tout bêtement, et c'est loin, c'est compliqué, donc ils ne le font pas. Donc ce passe culture, cette part collective, visait à dire, on donne, je ne sais plus, 30 euros par élève, comme ça, et vous pourrez financer ces sorties culturelles. Et là, c'est raboté. Et à mon avis, ça, c'est une erreur.
Natacha Valla, d'un mot, puis on va aller écouter Jack Lang.
Bon, pour faire le lien avec l'éducation nationale, mais de façon plus générale, l'éducation, la culture, c'est un investissement éducatif massif. On voit, il y a beaucoup d'expériences dans le monde entier, d'ailleurs. L'Inde est très très forte sur les études scientifiques sur le sujet. En Asie, ça fait l'objet de politiques très très volontaristes pour mettre en place, dès le plus jeune âge, encore une fois, dans le cadre scolaire, des activités, des enseignements artistiques, pour ensuite avoir un dividende scolaire de performance. Et ça, c'est vrai qu'on le voit quand on regarde, par exemple, les concours de violon internationaux qui commencent à l'âge de 8-10 ans et qui vont ensuite jusqu'à 25-30 ans. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'Asiatiques jusqu'à l'âge de 15 ans et très, très peu d'Européens. Aujourd'hui, en tout cas, c'est le cas et c'est un constat factuel. Pourquoi ? Parce qu'il y a une prise en main par l'État et par les structures qui fournissent le service éducatif et le service de formation aux arts et à la culture, mais aussi par les familles qui, dans leur stratégie propre, de tout milieu socio-économique d'ailleurs, incluent ce vecteur comme un vecteur de réussite, comme être humain finalement.
Il y a aussi d'ailleurs d'autres dividendes beaucoup plus mesurables, c'est la montée en puissance des pays asiatiques, par exemple un pays comme la Corée, dans les exportations culturelles, parce que ces enfants formés, ça fait ensuite des créateurs, un taux de création très important, et on a vu décoller ces pays asiatiques grâce à cela, dans la la fabrication, enfin la production culturelle et l'exportation de ces produits. Faut voir qu'on est complètement, on n'est pas du tout conscient de la montée en puissance d'un pays comme la Corée dans l'exportation des biens culturels. C'est un des premiers exportateurs d'aujourd'hui.
C'est ce qu'on peut lire dans votre rapport, hein, sous la plume de Bertrand Dermoncourt, critique musicale. La musique classique attire des publics jeunes et nombreux en Asie, en Chine et en Corée, là où les politiques publiques investissent massivement dans l'éducation artistique et les infrastructures. C'est un cercle vertueux.
C'est un cercle vertueux où effectivement on attire des publics plus divers, plus jeunes, et que donc sur le long terme, puisque c'est un processus de maturation à l'échelle de nos vies, donc ça prend quelques décennies, et ensuite ça produit un environnement qui lui-même est favorable à cette absorption culturelle.
France Culture, l'esprit public, Astrid de Villene.
Nous sommes toujours en compagnie de Marie-Vonne de Saint-Pulgent, la présidente du comité d'histoire du ministère de la Culture, de Maïr Guven, éditeur, écrivain, de Claire Baumelard, journaliste, grand reporter au Figaro, et de Natacha Valla, économiste doyenne de l'école du management et de l'impact à Sciences Po.
Ce que le client attend, ce que le lecteur attend, je parle le client moyen à travers l'ensemble du pays, c'est de disposer, à quelques pas de chez lui, d'un point de vente, lui-même largement achalandé, par un vaste échantillonnage de livres. Voilà la finalité principale. Bon, les lecteurs pourront continuer à fréquenter les grandes surfaces. Ce n'est pas faux que dans un premier temps, il y aura une légère hausse dans ces grandes surfaces. Mais comme vous le savez, les éditeurs ont pris à l'égard du gouvernement et face à l'opinion publique un engagement solennel de modération des prix des livres. Et l'expérience du passé montre qu'avant l'arrêté Monory, le prix des livres grimpait moins vite que le prix de la vie. Et comme tout à l'heure vous l'avez expliqué, sous l'Empire de l'arrêté Monory, ils ont grimpé plus vite que le prix de la vie. Je suis optimiste. Je parie sur le succès de la réforme. Et bien entendu, les éditeurs le savent, s'il y avait dérapage, s'il y avait non-respect de l'engagement pris, le ministre de la Culture, mais l'ensemble du gouvernement, le ministre de la Consommation, le ministre de l'Économie et des Finances, porteraient un coup d'arrêt et, bien entendu, apporterait des modifications à la loi.
Nous venons d'entendre une archive de Jack Lang, ministre de la Culture de François Mitterrand. C'est le 31 juillet 1981 sur TF1. Il défend sur le plateau d'Yves Mourouzi la loi sur le prix unique du livre qui sera adoptée quelques jours plus tard, le 10 août 1981. Qu'est-ce qu'elle a changé, cette loi, Marie-Vonne de Saint-Pulgent? Souvent, on en parle comme le symbole de l'exception culturelle française.
Ah, ça a été, c'est une loi symbolique. Moi, j'ai toujours soutenu que économiquement, elle n'avait aucun effet. Hein, bon, mais c'est une loi placebo. Ça fait du bien. Voilà. Ça fait du bien aux auteurs, aux éditeurs, et notamment aux auteurs qui pensent qu'ils ne peuvent pas être bradés, qu'ils ne seront pas mis en solde. Dans les faits, contrairement à ce qu'annonçait Jack Lang, la part des grandes surfaces dans le marché du livre a augmenté très considérablement.
Mais le prix est le même.
Le prix est identique pour tout le monde.
C'est ça, la grande avancée de la loi, si je l'ai bien
compris. Oui, non, mais la grande avancée, enfin, le grand objectif de la loi, c'était de préserver le réseau des librairies face aux autres marchés du livre. Alors, on a un réseau de librairies qui n'est pas complètement démoli, contrairement à, par exemple, celui des États-Unis, hein, qui a disparu pratiquement. Donc, on a conservé un réseau de librairies grâce à d'autres politiques, d'ailleurs, notamment le label de librairie indépendante qui a été créé par le syndicat des éditeurs et qui donne des avantages fiscaux, notamment en taxes foncières pour les librairies, parce qu'un des gros sujets des librairies, c'est le prix du mètre carré, hein, c'est avoir un achalandage de livres, ça coûte cher en termes de locaux. Voilà. Mais c'est le problème de la librairie est très complexe, mais disons que c'est une loi qui a été symboliquement très importante parce que justement, elle mettait la culture, enfin la production littéraire en l'occurrence, au centre d'une politique publique et elle créait effectivement une régulation spéciale de ce secteur.
Maïr Guven, en tant qu'éditeur et écrivain, vous diriez que c'est une loi symbolique ou vous dites merci à Jack Lang tous les jours pour cette loi?
Je suis trop jeune pour avoir connu le monde d'avant. En tout cas, ce que j'en ai appris et ce que j'en ai vu, c'est que ça a permis de réduire l'impact des best-sellers et donc d'augmenter la diversité éditoriale. Je compare ça au monde anglo-saxon où c'est vrai qu'il y a un effet de best-sellerisation immense et pendant longtemps en France, on pouvait être un auteur qui vit avec des ventes relativement modestes, mais qui a son public et qui peut continuer à écrire et à créer. Mais il y a un nouveau danger aujourd'hui, ou en tout cas, il y a une nouvelle adaptation que le monde de l'édition, sur laquelle le monde de l'édition doit travailler, c'est l'explosion de la vente d'occasion, et notamment des nouveautés. C'est quasiment devenu 29% des ventes. Alors, Ça casse en fait l'effet du prix unique du livre. Et souvent, c'est de l'occasion qui est vendue quelques semaines seulement, voire même en même temps que la sortie du livre principal. Ce sont des services de presse qui sont revendus. Et là-dessus, les auteurs et les éditeurs ne gagnent plus d'argent. C'est-à-dire, moi, je ne perçois plus de droits d'auteur. Alors, on peut se dire, ça a été touché une fois. Parfois, ça n'a jamais été touché. Quand ce sont des services de presse, ça n'a jamais été touché. Mais aujourd'hui, le secteur est violemment attaqué. Il va falloir trouver
des
solutions.
Allez-y, Marie-Vonne de Saint-Pulgent.
Il faut
après
créer
Claire
un droit de suite sur les ventes d'occasion, de même qu'on a créé un droit de suite pour les plasticiens sur la vente successive de leurs œuvres. Il n'y a aucune raison que ça ne s'applique pas aux auteurs de livres. Ce qui fait hésiter les pouvoirs publics, d'abord, c'est que ça ne peut se faire qu'au niveau européen, parce que sinon, il y aura une fuite vers l'étranger. Donc, il faut convaincre les instances de Bruxelles. Et il ne faut pas faire peser ça sur les acheteurs, mais sur les plateformes, parce que c'est le rôle des plateformes qui vivent de ce marché d'occasion. Et moi, je crois que c'est faisable. On peut trouver un système où il y aura un fonds général alimenté par ce droit de suite perçu sur le chiffre d'affaires des plateformes. C'est un peu des systèmes de financement. Il faut s'inspirer de ce que fait le cinéma, par exemple, sur les ventes successives des films.
Vous vendez une première fois le film. Sur les plateformes, voilà. Quand on les revoit.
Oui, mais par exemple, le passage à la télévision, c'est pas la même façon. On se rémunère sur les billets quand c'est dans la salle, mais quand il s'agit de la télévision ou quand il s'agit de la diffusion réseau, il y a une autre assiette. Et ça fournit aussi des financements. Et il faut que ça rémunère tous les détenteurs de droits, c'est-à-dire l'auteur, mais aussi l'éditeur, bien sûr. Et moi, je crois que c'est parfaitement faisable. Simplement, il faut se mettre en ordre de marche. Il faut que la France porte ce sujet devant la Commission européenne parce que ça ne peut se faire qu'à ce niveau-là. Il faut une directive qui crée ça.
On a quand même là un exemple du fait que l'exception culturelle existe en France. On est en train de discuter sur comment sauver le livre d'occasion sur les plateformes, comment, etc., gérer la filière livre. Je vous assure qu'il n'y a pas énormément de pays qui se posent la même question, sachant que là encore, tous les Français ne lisent pas. Enfin, on l'oublie, mais il y a, je crois... 40% des gens qui lisent au moins un livre par an, quel qu'il soit le livre, bon, ça, c'est pas la question. Donc, voilà, on a 3500 librairies en France, quand même. Ça, c'est la conséquence de la loi Langue. Et aujourd'hui, en 2020, lorsqu'il y avait le Covid, il y a eu une immense discussion politique sur est-ce qu'on ferme ou pas les librairies.
Est-ce qu'il s'agit
ou pas d'un commerce essentiel.
D'ailleurs, on a fini par reconnaître que c'était un essentiel, oui. Mais me semble-t-il, si mes souvenirs sont bons, au début, on les avait fermés.
15 jours.
Oui, 15 jours peut-être de trop, Mayer Guven.
Elles ont rouvert, ça veut dire que quand même, il y a cette passion française. Oui. Vous vous rendez compte? La controverse qui consiste à dire, nous ne sommes pas un bien essentiel, nous les livres, alors qu'on pouvait bien se fournir chez Amazon ou piocher dans sa bibliothèque. Ça n'a jamais été qu'un mois et demi, le confinement. Mais c'est intéressant. Ça veut dire que, oui, il y a une exception française. Et c'est la preuve.
Natacha Valla.
Il y a un autre élément quand même de l'exception française. C'est la question de l'investissement obligatoire par ceux qui vont, notamment les plateformes. Hein, j'ai les plateformes en tête, évidemment, et qui doivent réinvestir une partie de leurs bénéfices ou de leur chiffre d'affaires, d'ailleurs, je crois même que c'est le chiffre d'affaires. Sur des productions françaises ou des... Et ça, c'est un levier. Alors, les économistes n'aiment pas ces genres de leviers en général, ni les quotas, ni ça. Mais ça, dans le cadre de la discussion qu'on a aujourd'hui, ça marche quand même plutôt bien.
Et moi, une taxe affectée. Une nouvelle taxe affectée.
Voilà, les taxes, voilà.
Sur le tourisme, vous lisez dans mes pensées. Pour financer le patrimoine, puisque le tourisme profite du patrimoine gratuit, donc il faut. Voilà.
Pour tous les touristes, quelle que soit leur nationalité, où vous les différenciez.
Sur la taxe de séjour. Il existe en France. Et
donc, qu'ils soient européens ou extra-européens.
Oui, il y a des taxes de séjour dans les communes touristiques, mais aussi des taxes de séjour sur tous les logements loués par plateforme. Et cette taxe de séjour rapporte beaucoup d'argent, elle est très très dynamique, surtout dans les locations par plateforme. Et il y a déjà une surtaxe qui frappe cette taxe pour le financement des grandes infrastructures de transport, parce qu'ils sont nécessaires pour le voyage des touristes. Moi, je propose, puisque le tourisme, une partie du tourisme vient en France pour le patrimoine. C'est un des produits d'appel du tourisme. Or, le tourisme ne paye pas pour le patrimoine, par contre, il le dégrade. Voilà. Parce qu'il y a une surfréquentation de certains lieux qui crée des ordres. Et en plus, il y a toute une partie du patrimoine qui est d'accès gratuit. Voilà. Pas seulement par
comme Notre-Dame de Paris, par exemple, avec l'appel du pape.
L'ensemble des églises. Oui. L'ensemble des églises, mais pas seulement. Si vous regardez les bateaux sur la Seine, ils profitent d'un paysage inscrit au patrimoine mondial, ils ne payent rien pour ce patrimoine. Donc, il y a une espèce de... les économistes appellent ça des passagers clandestins. Le tourisme est un passager clandestin du patrimoine. Et donc, puisque
c'est peut-être pour
su...
ça qu'ils viennent aussi, Marie-Yvonne de Saint-Denis.
Bien sûr, mais ça rapporte beaucoup d'argent. Et c'est la première industrie française. Et donc, puisqu'on a déjà créé une surtaxe sur le tourisme pour financer les infrastructures de transport, il faut créer une surtaxe sur la taxe de séjour pour financer le patrimoine culturel, celui qu'on visite gratuitement et qu'on a du mal à entretenir parce que les communes ne peuvent plus entretenir leurs églises. C'est ça qui fait le paysage français. Et je me suis amusée à calculer ce que ça donnerait pour un palace parisien au taux appliqué en Ile-de-France pour financer les infrastructures de transport d'Ile-de-France. 200% de la taxe tourisme. Pour un palace parisien, ça fait 4 euros par nuit à l'hôtel. Voilà. Donc, et ça se fait très facilement. Le système existe, c'est les hôteliers qui perçoivent et qui reversent. Et donc, voilà, il faut faire ça. Donc, il faut trouver
une mesure qu'on peut trouver dans votre livre apparaître cette semaine.
Absolument.
Alerte sur le patrimoine
Marie-Bonne
de Saint-Pulgent.
Et je donne des calculs très précis. Et donc, je fais des propositions très précises pour qu'on ne me dise pas « Ah là là, faut étudier ».
Maïr Guven, sur ce point, j'aimerais entendre aussi Natacha Vallaclaire-Baumelard et que vous nous disiez aussi ce dont je parlais en introduction, ce que vous pensez du fait que c'est une grande nouveauté française. Est-ce que c'est une atteinte à l'exception culturelle française que de faire payer plus cher le musée du Louvre, le château de Chambord?
Non, c'est une reconnaissance de notre exception culturelle.
C'est pas une priorité nationale.
Le château de Versailles, s'il est debout aujourd'hui,
anti-universel.
Si le château, c'est qu'il a été entretenu depuis plus de 400 ans. Si Notre-Dame est debout, c'est la même chose. Je veux dire, Paris, il n'y a pas besoin d'entrer dans une église ou une cathédrale pour ressentir des émotions. Il suffit de visiter la ville. Or, la ville, c'est vous, c'est Marie-Yvonne, c'est Natacha, c'est Claire. Nous finançons.
C'est vous,
Marie-Yvonne. C'est 68 millions de Français qui financent. Moi, ce que dit Marie-Yvonne, en fait, c'est juste au quotidien, en vivant dans Paris, en voyant le nombre de touristes après le Covid, qui en fait consomment la ville, consomment les musées, et je me disais à chaque fois, mais c'est moi qui paye. Donc c'est un peu populiste de penser comme ça. Mais il y a 36 millions de touristes à environ 3 nuitées et demie qui viennent à Paris tous les ans. Ça fait une densité de population énorme. Moi, je préfère qu'on tombe à 30 millions et qu'on gagne de l'argent avec ça, plutôt que de devoir faire de la place sur les trottoirs à des gens qui ont une espèce de carte dans les mains ou un iPhone et qui me rentrent dedans. J'ai rien contre.
Vous n'aimez pas les touristes, vous?
Non, il y en a trop.
Allez-y, Claire Baumelin, vous partagez?
Je ne sais pas si cette augmentation de tarifs va diminuer le nombre de touristes. C'est la grande inconnue. Finalement, tous les musées ont augmenté leurs tarifs pour tout le monde, hein, et on doit le rappeler. Enfin, je parle des musées publics. Hein. Ils ont tous augmenté leurs tarifs récemment et ils ont encore une part de gratuité qui est énorme, puisque les moins de 26 ans européens ne payent pas. Rappelons-le, parce que c'est quand même très important. Ça veut dire que la jeunesse peut aller au Louvre gratuitement, ce qui est quand même un bon système politique. Là, sur les touristes extra-européens qui forment... pas la majorité des touristes au Louvre, au Mont-Saint-Michel, etc., mais une bonne fraction, on ne sait pas s'il va y avoir des phénomènes d'arbitrage. C'est-à-dire, on ne sait pas si, parce qu'ils doivent payer 30 euros plutôt que 22 c'est pour nous, si je puis m'exprimer ainsi, et 32 c'est pour les extra-européens.
Vous prenez quel exemple, le Louvre ?
Le Louvre. Ouais. On ne sait pas s'ils vont se dire, bon, alors je fais simplement le Louvre, puis je vais éviter d'aller à la Sainte-Chapelle, parce que c'est trop cher. On ne sait pas ça. C'est la grande inconnue.
En tout cas, le musée attend 15 millions d'euros.
Oui, c'est 15 recettes. À 20 millions d'euros.
Quant à Versailles, Château de Versailles, ils attendent 9 millions d'euros par an. L'augmentation est un peu moindre, c'est 32 euros par personne pour quand on est européen, 35 quand on est extra-européen. Natacha,
moi, il me semble, alors personne ne peut répondre ex ante à cette question, mais effectivement, ce qu'il faut, c'est évaluer l'élasticité marginale de la courbe de demande. Bon, alors, si on prend les Américains, quand on regarde la différence de niveau de vie qui s'est très fortement écartée sur les 10-15 dernières années, je pense qu'il y a encore de la marge pour augmenter les tarifs sans affecter...
Oui. Donc il faut le faire, vous êtes tous d'accord
sur
ce plateau.
Oui,
vous aussi, Marie-Vanne,
sur le plateau de séjour. En plus, c'est extrêmement c'est extrêmement courant. Je veux dire, on est en France. D'abord, les gens sont pour. Hein. Enfin, les Français, vous les interrogez, ils trouvent ça normal. Parce qu'effectivement, les étrangers non communautaires ne payent pas. Les étrangers communautaires non plus, d'ailleurs. Ils ne payent pas pour ça. Mais on ne peut pas le faire pour des raisons de libre circulation. On ne peut pas taxer plus les Européens. Mais si vous allez à New York, et si vous êtes New-Yorkais, résident new-yorkais, vous ne payez pas. Mais si vous êtes en dehors de New York, même américain, vous payez.
Oui, par exemple, le maître.
Oui, oui, exactement. Et donc, c'est extrêmement, ce qu'on appelle les tarifs forains, c'est extrêmement répandu. Et d'ailleurs, il y a eu une enquête qui a été faite par France Inter auprès du Louvre et de la Sainte-Chapelle pour demander aux gens ce qu'ils en pensaient. Beaucoup de gens, la plupart disaient, ah bah oui, mais on est habitué, c'est partout pareil.
Voilà, donc, oui, dans le monde, vous voulez dire Machu Picchu, Chute d'Iguassou, Cité interdite de Pékin, Mayer-Guyven.
Au Canada, les grands parcs, c'est de la nature. Les grands parcs sont entretenus. Il y a des sentiers, il y a des robinets, machin. On paye entre 4 et 10 dollars canadiens par jour. Ça paraît tout à fait naturel à tout le monde. En France, on ne paye pas pour les grands parcs. Mais moi, c'est pour ça que la taxe de séjour à Paris ou dans des villes comme Gordes... ou
Vous voulez dire, nous, ce sont nos impôts déjà.
Oui.
C'est comme ça que ça s'explique. Ouais, Natacha Valla.
Et en plus, c'est vrai, je vais prendre un exemple qui est la ville de Colmar, que je visitais il y a quelques jours, parce que je suis présidente du Festival de Pâques, de musique de Pâques de Colmar.
Ah bon?
et cette ville-là a un succès fou sur Instagram. Plusieurs millions de vues, vous voyez, les images sont magnifiques avec le givre, etc. Et Colmar a un gros problème aujourd'hui, c'est effectivement le surtourisme. Comment gérer, comment faire en sorte que ce patrimoine, qu'un centre historique magnifique, un patrimoine intangible avec les festivals, etc., comment faire en sorte que ce soit soutenable, avec en plus un levier, et là ce qui est un peu injuste entre guillemets, c'est que c'est le réseau social qui va se faire des marges sur une pauvre ville de province française qui elle-même n'en capte pas
un doit y avoir des retombées économiques.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Et c'est très positif.
Mais pour dire, dans cette gestion des flux, effectivement, c'est la gestion des flux de la valeur ajoutée de la culture avec les plateformes. C'est un autre sujet. Mais il y a quand même, le sujet n'a pas été complètement résolu.
Natacha Valla, tout à l'heure, parlait de l'élasticité de la demande. C'est-à-dire que c'est vrai que
du
le
prix.
Comportement...
L'élasticité au prix.
Oui. Claire Baumelard. Oui.
Et c'est vrai que dans ce domaine culturel, il y a un consentement à payer. Alors évidemment, si on tentait qu'on ne soit pas chômeur au bout du rouleau, etc. Mais lorsqu'on est un consommateur lambda, un touriste, il y a un consentement à payer qui est assez grand. Et... C'est comme ça dans ce secteur-là, et ça explique que des concerts de rap qui sont uniquement dirigés vers la jeunesse fassent le plein. Alors qu'on pourrait se dire, bah, ils sont à 130 ou 150 euros le ticket, c'est pas possible, ça va pas marcher. Eh bien si, il y a quelque chose de cet ordre-là, on est prêt, on s'applique au monde entier presque, on est prêt à payer un certain prix si tant est que ça soit intéressant, si tant est que la cause soit belle. Donc c'est pour ça que le désir que peut provoquer la culture française à l'étranger est très important, puisque on se dit, je veux bien payer 30 euros, c'est la Sainte-Chapelle, tout de même, la Sainte-Chapelle.
Le président de la République l'a dit lors de sa conférence de presse, la culture a un rôle premier à jouer pour réparer la promesse républicaine d'une égalité des chances qui n'est pas si effective aujourd'hui dans notre société. L'accès à la culture est loin d'être égal pour tous les Français. J'ai parlé de la ruralité, j'ai voulu en faire la priorité du début de ma mission. Cela fait sourire tous ceux qui m'imaginaient ne pas franchir le périphérique. Longtemps, on a voulu opposer le patrimoine et la création. Je considère que le patrimoine, c'est pas figé. Et la création se transforme souvent en patrimoine.
On vient d'entendre Rachida Dati, notre ministre de la Culture. C'était pour ses premiers vœux aux acteurs culturels en 2024. Marie-Bonne de Saint-Pulgent, on en a déjà un peu parlé, mais elle touche à tout ce qui est élitiste. Est-ce que c'est un discours obligé et finalement on n'avance pas beaucoup ou on a fait des progrès considérables?
Oui, enfin, d'abord... Il faut se souvenir, quand Malraux arrive, il dit qu'il faut mettre fin à cet horrible mot de province. Hein, vous rappelez cette expression.
Ah, déjà à l'époque.
Ah oui,
parce
oui.
Que c'est revenu sous Emmanuel Macron.
Oui, oui, oui. Ben, c'est aussi un entier. Mais c'est l'inégalité d'offre culturelle entre les grandes métropoles et avant tout Paris et le reste de la France. Je crois que de ce point de vue, le ministère a réussi son coup. Voilà. Il est évident que Malraux puis Lang ont équipé massivement le territoire. Voilà. Ça n'a pas suffi à augmenter la demande, parce que ça ne suffit jamais. Il faut travailler aussi sur la demande, et donc c'est ce qu'on a dit sur l'éducation artistique. Mais c'est vrai que l'équipement culturel de la France a été réalisé dans pratiquement tous les domaines. Alors, il reste des territoires moins dotés que d'autres, bien sûr, c'est plus facile dans une métropole, mais quand même, globalement, de ce point de vue, on peut féliciter le ministère, il n'a pas été inutile. Maintenant, elle disait aussi cette opposition entre patrimoine et création. Et là, on le voit, cette opposition-là, elle existe toujours. Toute une série d'idées reçues s'installent sur ce sujet. C'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure sur l'excellence par rapport à la démocratisation. Cette opposition entre les créateurs et les patrimoniaux. Et cette idée que le patrimoine, c'est ringard, c'est de droite, mais c'est aussi populaire. C'est une pratique beaucoup plus démocratique que tous les autres. Et à l'exception sans doute de la musique, hein, dans ce pays, ce que avant tout la plupart des Français consomment, c'est le patrimoine d'un côté et la musique de l'autre.
Claire Baumelard, vous aviez révélé le chiffre du loto du patrimoine qui avait vraiment fonctionné, 21 millions d'euros récoltés grâce aux Français.
Grâce à des jeux de grattage. C'était une bonne idée, ce loto du patrimoine. D'abord parce que on connaît tous Chambord, etc. Mais la France, c'est pas tellement une terre uniquement de Chambord. C'est aussi énormément de petits patrimoines. C'est très difficile de s'en occuper. Ils sont très nombreux. Alors, où trouver de l'argent? Cette idée de loto du patrimoine, c'était pas mal. C'est que c'était... Chacun peut mettre à hauteur de ce qu'il a, de ce qu'il gagne, et chacun peut être acteur de la restauration. Ça veut dire on ne rejette pas l'idée de la restauration à une entité publique, comme ça, l'État, la mairie. C'est soi-même qui peut contribuer. Donc, c'est un très, très grand succès dans l'argent, mais c'est un succès aussi, je dirais, philosophique.
Maïr Guven, le mot de la fin.
Moi, je suis entièrement d'accord avec Claire Baumelard. Il faut démocratiser l'accès au financement de la culture. Il nous faut ces outils pour que le maximum de Français puissent participer au financement d'un film, qui suivent l'écriture du scénario, le tournage, le montage, la restauration d'un musée, la création d'une exposition. Appartenir à quelque chose, en tout cas, participer à sa construction, c'est vraiment se valoriser soi-même.
Et ça commence à fonctionner, hein. Je vous donne juste un chiffre, plus 24% en 2023 sur le financement participatif
de la
culture.
C'est ça, le système de financement participatif.
Un dernier mot avec vous, Natacha Valla, dans le livre dont je vous parlais, L'exclusion culturelle, avec cette postface de Mohamed El-Khatib, l'exception culturelle est terminée. On nous dit, n'importe quel Français qui vient à Paris doit avoir autant envie d'aller au Théâtre de l'Odéon, au Palais de Tokyo, que de monter sur la Tour Eiffel ou faire une croisière en bateau mouche. Est-ce que vous partagez? Est-ce que c'est un des objectifs à tenir?
Bien sûr, ça c'est des envies qui se nourrissent dès tout petit, j'ai envie de dire. Donc c'est un imaginaire collectif qu'il faut savoir nourrir et puis donner aussi les moyens au secteur privé de s'investir directement pour des projets culturels.
Et il le fait.
Oui.
Allez, c'est l'heure de vos coups de cœur, puisqu'il est bientôt midi sur France Culture. Je vais vous demander d'être très court. Maïr Guven.
Alors, je suis en train de lire un livre finlandais, un roman qui s'appelle Le Lièvre de Vatanen d'Arto Paasalinna. C'est un histoire d'un journaliste, c'est un peu loufoque, un journaliste qui trouve un lièvre et puis qui va refaire sa vie avec lui. Mais c'est un grand roman finlandais, donc je défends l'exception culturelle finlandaise.
Ça ressemble à Alice au Pays des Merveilles. Natacha Valla, rapidement.
La Finlande, modèle sur la politique culturelle. Moi, je suis en train de lire Dantepa de Léonore de Récondo, qui est un roman intimiste. C'est une lumière, ce roman, c'est sur la filiation, sur le père, sur le décès, les traces. C'est très, très prenant.
Claire Baumelard.
Je recommande d'aller voir l'exposition à la Cité de la langue française à Villers-Cotterêts.
Ah, on n'en a pas parlé.
Un des bons équipements
d'Emmanuel Macron, de son bilan.
Pour cette raison, parce qu'ils sortent, ils se sont fait prêter par la BNF 100 manuscrits. C'est passionnant. Il y a des trésors médiévaux, mais il y a aussi des manuscrits plus contemporains. Et c'est toute une réflexion sur l'écriture, l'objet manuscrit et les affres de la création.
Et ça
c'est
permet formidable. De visiter cette cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, inaugurée en octobre 2023 par le président Macron. À vous, Marie-Vonne de Saint-Pulgent.
Ah oui, alors moi j'ai vu un très beau spectacle à l'Opéra Comique, Mon cher à mon cœur, qui est Werther de Massenet, un des opéras français les plus populaires dans le monde. Et alors, évidemment, l'Opéra Comique, d'abord c'est plus facile d'y aller qu'à l'Opéra de Paris. Et puis, il y a sur scène des enfants qui viennent de la maîtrise populaire de l'Opéra Comique, qui est une institution tout à fait originale, qui fait chanter des enfants des écoles de la périphérie de Paris, et qui leur apprend la musique en les faisant jouer sur le théâtre.
Merci infiniment à tous les quatre d'être venus. Marie-Vonne de Saint-Pulgent, vous êtes la directrice du...
La présidente du comité d'histoire du ministère de la Culture.
Voilà, merci beaucoup. Natacha Valla, économiste. Claire Baumelard, grand reporter au Figaro. Maher Guven, écrivain. Quant à moi, mon coup de cœur, c'est pour le site de l'Opéra de Paris qui s'est rénové, beaucoup plus accessible avec des bandes annonces et des tarifs préférentiels pour les familles qui ne sont jamais allées à l'Opéra. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine dans l'Esprit public à 11h en direct.